Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode dédié aux objets connectés. Leur nombre a été estimé par l'Institut IDAT à 15 milliards aujourd'hui et ils seront environ 80 milliards en 2020. Le marché de ces objets est estimé par le Gartner à 1,5 milliard de dollars en 2014 et il atteindrait 5 milliards de dollars cette année. Ces objets sont utilisés dans de très nombreux domaines, par exemple dans le domaine du bien-être, dans le domaine de la santé, de la vie intelligente, par exemple avec la domotique, les villes intelligentes, etc., etc. Alors ces objets sont le plus souvent capables de récupérer de l'information, par exemple la température, la pression, la vibration, la luminosité, l'humidité, la tension, etc., etc. Ils sont pour certains capables d'analyser ces données et de les retransmettre. Dans cet épisode, nous nous pencherons bien entendu sur les problématiques de sécurité liées à ces objets. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont aujourd'hui Éric Leblond.
Bonjour.
Jean-François Audenard.
Bonsoir.
Nicolas Ruff.
Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous écoutez.
Patrick Chambet.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Ulloa. Alors messieurs, première question, pensez-vous que ces objets ont été conçus en prenant en compte les problématiques de sécurité ?
Oh, bien sûr que non. Tu peux réfléchir deux minutes à la sécurité, mais il y a des contraintes de taille, de durée de vie de la batterie, de performance, etc. qui font que si tu veux être le premier sur le marché et avoir un objet qui tient la route, tu es obligé de diminuer la sécurité au minimum. Et puis en plus, aujourd'hui, on vit dans la civilisation du patch. Donc comme ton objet, en général, tu as du mal à le patcher, il vivra avec ses failles jusqu'à ce que tu achètes ta prochaine version, quoi.
Déjà, si c'est écrit connecté, ça veut dire que les gens ils veulent connecter, donc il n'y a pas de sécurité.
Connecté égale non secure.
Oui, effectivement.
Pour moi, c'est la vocation grand public qui fait que forcément, les barrières de sécurité doivent sauter, que l'implémentation doit reposer sur des principes tellement simples que tout le monde arrive à les mettre en œuvre.
D'accord.
Il y a aussi la qualité du hardware. On a parlé effectivement donc de la rapidité de mise sur le marché, donc la rapidité de conception. Et puis il faut aussi que ce soit pas cher. Donc c'est du hardware extrêmement simple, extrêmement simplifié, avec peu de mémoire, peu de capacité de calcul, etc. Donc on ne peut pas déléguer des calculs cryptographiques très importants sur ce genre d'objet. Donc, il faut oublier tout ce qui est crypto et chiffrement un peu sioux. Il faut évidemment oublier tout ce qui est patchage, voire tout ce qui est traçabilité. Et puis, c'est aussi des objets qui ont une durée de vie très très courte. Il y a certains patchs, effectivement, qui durent 2 ans. Voilà. Donc, on ne change même pas la batterie. Hein. On les jette et on en achète d'autres. Donc, ces trucs-là, c'est clair qu'on ne pourra jamais les patcher et qu'on ne pourra jamais non plus concevoir des protocoles sécurisés suffisamment robustes, quoi.
Une des tendances, moi je trouve que sur les aspects crypto, il y a un peu, on peut voir sur les un peu comme ça se passe sur les microprocesseurs avec des jeux d'instructions qui Intel ou AMD dans les dernières versions entre guillemets intègrent des fonctions carrément des instructions liées à tout ce qui est génération de nombres aléatoires, chiffrement. On peut voir notamment arriver sur tout ce qui est microcontrôleur de chez Atmel. Qui intègre nativement des fonctions de génération de nombres aléatoires, hein, c'est le cas dans le cadre de tout ce qui est Arduino, mais on a aussi Atmel. Ils ont sorti récemment des petits composants électroniques qui te permettent d'implémenter dans du silicium des primitives de chiffrement ou des fonctionnalités de type module TPM. Qui peuvent être une réponse pour faire de la sécurité un peu embarquée. Mais effectivement, ça coûte, c'est une complexité supplémentaire, et je pense que c'est pas non plus l'objectif actuel. Actuellement, c'est prendre des parts de marché avant tout, et la sécurité, on verra un peu plus tard.
Alors, donc une sécurité qui n'est pas ou très peu prise en compte par ces objets, selon vous, quels sont les impacts que cela risque d'avoir dans notre vie courante ?
Les objets en eux-mêmes, c'est pas tellement un problème parce que Si c'est des objets connectés, le problème, c'est que ce sont juste des sondes, des collecteurs qui remontent des informations vers, en général, un site situé sur Internet. Enfin, c'est assez rare qu'on ait des objets qui fonctionnent complètement offline où, en fait, l'objet se décharge dans un PC par un câble et tu gardes la propriété de tes données. En général, tous ces objets, la première chose qu'ils font, c'est chercher un réseau Wi-Fi ou Bluetooth ou autre pour aller sur Internet et tout déposer chez un fournisseur où tu vas consulter, récupérer tes données. Et je pense que le problème de sécurité, il est surtout là, quoi. Parce que ton objet, il a beau tomber en panne au bout d'un moment, ou voilà, tes données, elles ont été collectées, remontées, et tu sais pas ce qu'il en advient. Ouais, je sais pas, vous avez l'expérience avec des fourchettes connectées, des trucs comme ça, ou des bracelets, il y a beaucoup de gens qui s'achètent des bracelets pour compter le nombre de pas.
Alors effectivement, j'ai interviewé des collègues qui en avaient. Moi, j'ai pas de bracelet, mais j'ai bien étudié le truc. Donc effectivement, c'est des trucs qui t'espionnent toute ta journée et même toute ta nuit. C'est-à-dire qu'ils analysent ton sommeil. Donc ils sont capables de savoir ton poids, le nombre de pas, ton activité, comment tu dors, ce que tu manges, voir d'autres trucs. Hein. Et une fois que c'est dans le cloud, tu sais pas ce que font les gens avec. Ils analysent ça comme du big data, ils en sortent des données qu'ils peuvent éventuellement revendre à des compagnies d'assurance, revendre à des banques ou à des chaînes de supermarchés. Et puis voilà, tu sais pas quels agrégats ils font avec ces trucs-là. Est-ce qu'ils vont réellement utiliser des agrégats de personnes, ce qui permet d'être anonyme, ou est-ce qu'ils vont quand même coller ton nom et permettre à une compagnie d'assurance d'augmenter ta prime d'assurance parce que on suspecte que tu as telle maladie ou que tu es en surpoids. Enfin, ça peut aller jusque-là. Quoi.
Alors ça, on va dire que ce sont des impacts qui sont prévus, mais quid des exploitations de vulnérabilité, toutes ces choses, quels sont les impacts que ça va pouvoir avoir dans notre vie courante?
Alors pour les petits bracelets, effectivement, on peut pas faire grand-chose, c'est des sondes, comme disait Nico. Après, on a quand même eu un frigo connecté qui a balancé du spam, hein. Vous vous souvenez, il y a un an et demi à peu près. Donc voilà, les frigos connectés, on peut penser qu'ils ont une connexion Wi-Fi suffisante, voire une connexion filaire, et puis un OS un peu élaboré dessus, qui permettent de prendre la main, d'installer des applicatifs ou des malwares, et puis de balancer du trafic réseau à partir de là. Donc, là, on pourrait penser à des botnets hein, et donc faire tout ce qu'on peut faire avec des botnets, hein, mais là, avec des millions, voire même des dizaines de millions d'objets.
Alors attention, parce que le cas du frigo, c'est particulier. Le frigo, il a une prise électrique. Donc, il peut rester allumé en permanence et embarquer un PC complet, etc. Parce que le problème de tous les objets connectés, c'est la batterie. Hein. Les objets connectés à une prise de 220, c'est pas un problème. C'est juste des PC avec des écrans tactiles. Après, il y a tout le reste, quoi. Voilà. Effectivement, je pense que si on pirate ta brosse à dents, c'est pas dramatique. Par contre, comme tu le disais en introduction, tout le monde va vers sur la voiture sans pilote, les routes intelligentes, etc. aujourd'hui. Moi, j'ai vu les projets du gouvernement, enfin, qui sont publics, hein, j'ai vu ça dans la presse. Le gouvernement français, ils veulent mettre en place, je sais plus quel objectif, 2040, un truc comme ça. Où, en gros, toutes les voitures seront électroniques et se guideront par rapport à la voiture de devant et au bord de la route. Ouais. Avec des protocoles qui sont pensés sécurité, mais pas très bien
faits. Hein, un exemple, c'était en 2013, si ma mémoire est bonne, c'était des Chinois qui avaient envoyé des fers à repasser en Russie et qui intégraient des composants qui se connectaient en Wi-Fi pour spammer. De fou furieux.
J'ai vu ça aussi, mais je sais pas si c'est vrai. Ça me
semble. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est quand même un peu fou furieux, quoi.
En gros, le fer à repasser était piégé avec un truc qui scannait les réseaux Wi-Fi, qui brute forçait les clés WPA s'il y en avait. Et s'il arrivait à se connecter à un réseau, il envoyait du spam, quoi.
C'est tout juste exceptionnel.
C'est.
Et tout reste à inventer, en fait.
C'est un risque, effectivement, ouais. Et si on revient sur les voitures connectées, alors là, effectivement, ça impacte la vie assez directement, effectivement. Hein. Donc, même si l'avantage, c'est que bientôt, il n'y aura plus de feu rouge, hein, parce que les voitures se croiseront à angle droit sans même s'arrêter. Ça va être chouette à voir. Mais s'il y a un petit défaut, il y a un impact direct, hein, un impact assez rude, d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, vu les démonstrations qui ont été faites à Las Vegas l'été dernier, hein, à DEFCON et Black Hat, il y a encore des progrès à faire en termes de sécurisation des voitures connectées. On a eu une présentation d'une marque française, d'ailleurs, au dernier congrès du CESIN, qui ont bien montré que les constructeurs avaient bien intégré le risque, ce qui est déjà assez rassurant, mais qu'il y a encore un peu de travail à faire. Hein.
Mais de toute façon, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit un standard international. Enfin, au moins national. Tu peux pas avoir un constructeur qui bosse sur un truc et puis les autres qui font autre chose. Et du coup, tu as des routes réservées au Renault et des routes réservées au Citroën parce qu'ils savent pas se parler entre eux, quoi. Moi, il me semblait qu'il y avait un standard qui était... il y avait un groupe de travail qui visait justement à normaliser tout ça. Il y avait une histoire où ils avaient, pour des raisons d'anonymat, ils ont embarqué 1000 certificats différents et la voiture signait aléatoirement avec un de ces certificats, je sais pas quoi. Ça te dit rien, ça?
Ouais, il me semble avoir vu ça, effectivement, ouais.
Mais ouais, déjà, il faudrait que les Anglais commencent à rouler à droite. Hein. Parce que... S'il faut valider deux versions de logiciel, ça va coûter trop cher. Hein.
T'inquiète pas, il n'y a plus de fabricants de voitures anglais, donc ils seront obligés de faire comme tout le monde.
Cool.
Ouais, ceci dit, il n'y a pas qu'en Angleterre qu'on roule à gauche. Hein.
Oui. Bon. Ils ont contaminé d'autres personnes.
Effectivement, il faudra que le GPS de la voiture ne soit pas piraté et fonctionne bien en traversant la Manche. Hein. S'il a l'impression d'être toujours en Angleterre et qu'il fait comme s'il devait conduire à gauche, ça va être joli.
Ouais, t'as quand même des senseurs de proximité. Enfin, tout n'est pas basé que sur des informations de l'extérieur, quoi. Le véhicule a quand même des capteurs et il peut faire des freinages d'urgence s'il voit qu'il roule à contresens et qu'il se passe quelque chose.
Oui, espérons.
Les gens, ils se focusent sur la voiture, mais en fait, il y a deux catégories d'objets, quoi. Il y a les merdes que tu vas laisser au placard au bout de 6 mois, puisque c'est a priori ce qui arrive à plus de 50% des objets connectés. Et puis après, il y a les trucs, quand on sera redescendu de la courbe de hype du Gartner, il y a les objets qui servent vraiment à quelque chose. Par exemple, les voitures, mais par exemple aussi les portes, les e-locks, les portes électroniques. Parce qu'aujourd'hui, avoir une serrure, c'est complètement déconnant. Je veux dire, tu perds les clés, tu payes une blinde pour faire du piquet à clé, etc. Demain, tu mets une serrure NFC, tu ouvres ta porte avec ton smartphone. Ton invité est arrivé 10 minutes avant toi, tu es toujours en train d'acheter le pain, hop, tu lui envoies un code, il peut ouvrir ta porte, quoi.
Non, mais justement, quand tu vois les problématiques d'exploitation de vulnérabilité qui sont remontées ci et là, est-ce que tu n'as pas plutôt envie de retourner à ta bonne vieille serrure
Bon, les portes et les serrures, ça n'arrête personne. Hein. Enfin, je veux dire, la porte la plus certifiée, je crois qu'elle tient 10 minutes, quoi. Donc, je pense qu'il faut plus de 10 minutes pour pirater un système électronique. Par contre, le problème, c'est qu'une fois qu'il est piraté, tu peux ouvrir toutes les portes d'un seul coup.
Et puis, il va falloir prouver à ton assureur que la porte, que les gens sont rentrés par effraction cyber.
Ben, traçabilité.
La cyber-effraction, ça va être chouette.
Aujourd'hui, tu n'as aucun log dans les VIGIC, non ? T'es pas capable de faire venir quelqu'un et lui dire tiens, à telle heure le badge poste a été utilisé, à telle heure le badge de tel résident a été utilisé, etc.
Je pense pas.
Dans certains types, si tu sais effectivement le numéro de badge et l'heure où il est passé. Mais bon, c'est assez primitif. Par contre, effectivement, depuis quelques années, tu as des e-lock, comme tu dis, que tu peux activer à distance. C'est utilisé dans les locations, par exemple, hein, pour donner accès à un locataire à l'autre bout de la France. Donc, il aura accès de telle date, etc. Tu n'as pas besoin de lui envoyer les clés par la poste.
Ah, c'est vrai que c'est pratique, ça.
Et ça va certainement se généraliser, effectivement, avec l'utilisation des smartphones et tout. Et tout. Bon, après, il ne faut pas se le faire piquer, ou alors il faut mettre de la biométrie. Enfin, bon, c'est les réflexions habituelles autour de ce genre de choses. Hein.
Ouais, ben. Après, il faut qu'il y ait de la révocation. Enfin, tous les trucs qu'on connaît déjà, quoi.
C'est... On peut se couper les doigts.
Voilà, exactement.
Je pense que, en fait, là, au niveau des objets connectés, on est vraiment dans la phase où tout le monde se dit il me faut mon objet connecté, mais globalement, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un objet connecté, quoi ? Ouais, tu me dis que tu as un collègue qui a son bracelet, là, c'est le Weezing, c'est ça ?
Oui, alors il y a les bracelets, il y a les petites stations météo aussi, qui sont faites par une boîte française qu'on met dans son salon. et qui détecte pas mal de choses. Donc il y a la température interne, externe, le taux de CO2, d'humidité, et il y a le bruit également. Et ça, c'est assez rigolo, le bruit, parce que tu peux savoir ce qui se passe chez toi et le loguer sur le long terme. Donc tu peux savoir que la femme de ménage arrive tous les jours, qu'elle branche l'aspirateur à 9h pile, qu'elle fait la vaisselle, les machins, il y a la nounou qui rentre, les gamins qui hurlent le soir à telle date et à telle heure. Donc tu peux faire des stats assez précises. Et quelqu'un qui pirate ta station météo peut aussi faire des stats assez précises.
Ça enregistre le son ou le niveau sonore ? Qu'est-ce que ça restitue ?
C'est juste le niveau sonore. On s'est effectivement posé la question, mais vu la capacité de stockage, je pense que c'est vraiment que le niveau sonore. Par contre, avec le capteur de CO2, tu peux en déduire le nombre de personnes qu'il y a dans la pièce. Donc, tu peux savoir aussi s'il y avait une soirée en famille ou si ton mari qui était censé être seul un week-end était plutôt deux que seul.
Toi, tu fais beaucoup de bruit, toi ?
Là, je parlais du CO2, hein. C'était le taux de CO2 qui te permet de compter le nombre de gens dans la pièce.
Ah, tu corrèles le bruit et le CO2, et là, tu sais ce qui se passe chez toi le week-end.
Voilà, exactement.
Juste rajouter le méthane et puis c'est bon.
Ouais. On t'a pas entendu, Eric. J'ai pas entendu.
C'est pas grave.
Là aussi, tu dois pouvoir savoir ce que le gars regarde à la télé, parce que si tu corrèles le niveau de bruit instantané avec ce qui se passe sur les différentes chaînes, tu peux identifier les coupures de pub, etc. Ben, ça me semble assez facile. Quoi.
Effectivement, ouais, les explosions dans les films d'action, etc. Tu sais ce que regardait le gars.
Mais globalement, ce genre de station météo, en stand-alone, ça n'a pas un intérêt énorme. Par contre, si le truc détecte qu'il y a trop de CO2 et qu'il ouvre la fenêtre à ce moment-là, là, ça commence à devenir marrant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il me semble que chaque objet, c'est un peu... Enfin, tu vois, il n'y a pas d'interopérabilité, chacun a son propre site web pour avoir ses données, tu peux pas les agréger, enfin... Et t'as pas the big picture, quoi.
Mais on est au balbutiement, je pense que ça va effectivement se structurer dans les années à venir. On va commencer à avoir des... Comme tu disais, des standards qui vont permettre aux objets de communiquer, et puis ça va arriver. Et là, il faudra voir... Ça va être un espèce d'écosystème, il va falloir voir comment ça se comporte, ça va être assez amusant, je pense.
Là, je pense que ce qui va se passer, c'est que la courbe va retomber. Et après, quand il y aura plus que quelques fournisseurs et qui seront interopérables entre eux, et que tu pourras acheter n'importe quoi et le brancher avec n'importe autre quoi, et ça fera des choses utiles. Ouais, ça va commencer à vraiment s'implanter dans la vie des gens.
Bah là, effectivement, on rejoint le sujet des smart cities, hein, les villes connectées. Qui permettent effectivement à l'échelle d'une rue, d'un boulevard ou d'un quartier ou de toute une ville de gérer certains trucs. Typiquement l'éclairage, effectivement. Donc bon, le but, c'est de gagner sur la consommation électrique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des détecteurs de présence dans les candélabres, donc dans les réverbères. S'il n'y a personne dans la rue, l'éclairage est mis au minimum. Et dès qu'on détecte la présence de certaines personnes qui marchent, on augmente la luminosité. Donc comme ça, tout le monde y gagne. On peut aussi diffuser un réseau Wi-Fi, diffuser de la voix, de la musique, pas mal de choses comme ça, effectivement. Et ça, on peut aussi améliorer le trafic, gérer mieux le trafic, mettre de la vidéo protection, pour ne pas utiliser le mot vidéosurveillance, etc. Donc ça, c'est l'avenir aussi des smart cities.
Mais il y a vraiment un retour sur investissement d'un genre de truc ?
Alors ça doit être calculé parce que pour l'instant les déploiements sont pas complets, c'est des déploiements sur des pilotes, hein, sur des avenues de test, des choses comme ça. Il faudra voir, mais effectivement si tu arrives à faire une économie de 30% sur ta consommation électrique sur plusieurs années, ça commence vraiment à chiffrer, hein, et à rentabiliser le matériel. Donc ça peut être pas mal. Plus d'autres services, hein, donc je parlais tout à l'heure du stationnement des voitures avec des capteurs qui permettent de détecter des places libres pour orienter les gens qui cherchent des places, par l'intermédiaire d'une application mobile, par exemple, hein, sur des PDA. Donc on peut imaginer comme ça tout un tas de services qui sont liés aux smart cities et aux objets connectés en général. Donc après, bon, bah, bien sûr, il faut faire attention à la sécurité de la chose, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse plonger tout un quartier, voire toute une ville dans le noir. Hein, là, ce serait un peu le scénario à la Die Hard 4, qui est resté de l'hypothèse pour l'instant, mais qui pourrait arriver un jour.
Ouais, parce que, enfin, autant pour les lampadaires, à la limite, pourquoi pas, mais j'ai quand même du mal à voir si la maintien en condition du système ne coûte pas plus cher que l'électricité que tu économises finalement. Enfin, parce que dans tous ces trucs-là, tu sais, l'électronique tombe en panne, le truc se met à déconner, il faut maintenir un serveur web derrière pour collecter toutes les données. Enfin, et sur plusieurs années, le fournisseur a disparu, les protocoles ont changé. Enfin, tu vois, ton lampadaire, il sera encore en SSLV3. Quoi. Donc, gens, ils voient bien le coût de déploiement, mais après, il y a aussi l'informatique, ça coûte aussi très cher à opérer au quotidien. Quoi.
Ouais, tout à fait. Là, il faudra faire des calculs avec des durées d'amortissement, effectivement, de la TMA éventuellement. Ah ouais, il doit y avoir des calculs assez sioux là derrière. Et puis là encore, il va y avoir des objets à patcher ou à mettre à jour. Et là, si le constructeur l'a pas prévu, on est coincé.
Moi, il faut rester captif des capteurs parce que si une société mais qui a déposé ça, justement, ça a un coût très élevé, le service rendu est devenu important. Ce qui risque de se passer, c'est que c'est une situation de monopole et de contrôle de la ville par une institution privée, si c'est l'institution privée qui a déposé les trucs. Donc, comment se garantir là-dessus en termes d'indépendance? Ça peut être de la sécurité, mais on n'est pas loin quand même.
Oui, effectivement, on se retrouve dans le modèle des oligopoles, hein, donc où il y a très peu de gens qui font du matériel. Bon, je pense que ça va quand même se démocratiser. Hein. Il y a déjà plusieurs fournisseurs d'équipements qui savent gérer des candélabres. On ne va pas en citer, hein, mais il y a des marques américaines et puis des marques françaises. Voilà, je pense que ça va se multiplier et qu'il y aura une concurrence assez intéressante à ce niveau-là. L'avenir nous le dira.
Moi, j'ai quand même l'impression que les seuls qui ont vraiment un incentive commercial à piéger les villes, c'est les marketoïdes. Avec toutes les histoires de Ibicon, etc. Enfin, tu sais, déjà à Londres, les poubelles sont piégées pour repérer le passage des gens avec leur smartphone. Et en France aussi, il me semble que les affiches dans le métro ont une caméra qui détecte le nombre de gens qui les regardent. T'as dit rien ça, les panneaux Samsung là qui animaient. En fait, quand tu passes du vent et que tu regardes la pub, il détecte tes yeux et ça compte comme une impression pour le publicitaire.
Ça n'a pas été désactivé, ça?
Oui, il me semble que ça a été désactivé. Il me semble que le panneau devait reconnaître si t'étais un homme ou une femme et te présenter une pub en adéquation. Et il me semble que ça a été désactivé.
Mais effectivement, le côté coût, quand tu regardes ces grands écrans-là, je ne sais pas combien ça doit coûter un panneau de ce genre-là. Est-ce que c'est rentable? Bonne question. Ça doit l'être, hein. On peut supputer qu'il y en a qui sont très intelligents et qui ont fait le calcul, hein. Mais après, d'un autre côté, ça veut dire que le nombre d'impressions qui peuvent être mises, changées, ils sont capables de vendre le support à je sais pas combien de sociétés, alors qu'auparavant, ils le vendaient à une seule. Donc, quelque part, dans ce mode-là, c'est effectivement potentiellement intéressant. Mais ça serait intéressant de savoir... s'il y a quelqu'un qui a été regarder un peu la sécurité du réseau informatique qui est utilisé pour l'interconnexion de tous ces écrans-là. À mon avis, il doit y avoir des choses intéressantes à creuser de ce côté-là.
Bah, écoute, t'as un pied de biche, t'as un chariot, je suis ton homme.
Hein. Ah, ça fait une belle télé, ça ferait une belle télé à la maison.
Enfin, moi, je le vois tout de suite. Aujourd'hui, au niveau de la pub, c'est clair que tout le monde se dirige vers, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais micromanagement, quoi. C'est-à-dire que l'avantage de ce panneau, c'est qu'il te met pas la même pub aux heures de bureau qu'en journée où il y a des touristes, qu'à midi où il y a les mecs qui vont faire un déjeuner. Et effectivement, si tu dois payer un gars pour changer du papier 5 fois par jour sur des murs, c'est pas rentable. Par contre, je serais pas surpris d'apprendre que le truc est aussi bourré d'électronique et qu'il enregistre tous les smartphones qui passent à proximité, qu'il fasse du Ibicon à la Apple, etc. quoi. Et qu'à terme, il puisse t'offrir des services supplémentaires du genre, tu regardes la pub, t'as ton téléphone dans la poche, et si t'as le malheur de regarder la pub, d'un seul coup, ton téléphone se met à vibrer et t'as un truc qui t'est arrivé en push sur ton téléphone.
Ouais, t'as un coupon de réduction ou la promo, notification de la promo magique tout de suite maintenant dans le magasin qui est juste à côté. Effectivement, la créativité des marketeurs est sans limite. Hein.
Si tout le monde y trouve son compte, pourquoi pas, hein. Ça peut être sympa aussi d'avoir ce genre d'information marketing à un moment donné si t'es demandeur.
Je veux dire qu'on a remplacé l'analyse de la rétine de Minority Report par l'analyse du PDA que tu as au fond de ta poche, en fait.
Ce qui est important, c'est que tout le monde y trouve son compte.
Il a le dernier iPhone ou le dernier Samsung à la mode. On récupère ça via les adresses MAC. je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. Hein.
Ouais, t'affiches 10% de réduction à la place de 20 et c'est bon, il vient quand même s'il a un iPhone.
S'il a un iPhone, voilà. Il fait plus 20%. C'est ce qu'ils font sur les sites, comment ça s'appelle, IP Optimization. Là.
Oui,
tu vas réserver un hôtel avec un Mac ou avec un Firefox ou Linux, tu as 50% de différence entre les prix. Quoi.
Ah, effectivement. Hein.
Non, mais ça se fait pour de vrai, ça.
Ah, ouais. Tu peux aussi attendre qu'une personne passe devant un endroit quelconque et puis faire exploser une bombe. Hein. En termes de terrorisme, tu peux faire pas mal de choses. Voire même, effectivement, attendre que quelqu'un d'un certain pays, parce qu'il a une adresse Mac dans une certaine fourchette, passe, et puis, tu déclenches la bombe. C'est un peu comme ce qu'on avait imaginé à l'époque des passeports avec puce intégrée. Pareil, on peut détecter un passeport avec un certain type de puce, on sait que c'est un passeport de tel pays, et boum, ça pète. Bon, là, on s'éloigne un peu des objets connectés, mais pas tant que ça, finalement.
Mmh. Oui, puis ça rejoint un petit peu la question que je posais en préambule, à savoir, est-ce que les objets connectés induisent de nouveaux risques, ou on va rester dans des choses relativement classiques qu'on connaît déjà ?
Bon, des risques, il y en a certainement, hein, parce qu'aujourd'hui, tous les objets connectés, ils communiquent par un réseau local. En général, c'est du Bluetooth, low energy ou des trucs comme ça. Donc, potentiellement, c'est beaucoup plus facile à détecter qu'un passeport, puisque pour le passeport, en fait, la lecture du passeport nécessite d'avoir la... Enfin, pour simplifier, en gros, la clé de chiffrement, c'est ce qui est marqué sur la première page du passeport. Et donc, si tu n'as pas la lecture optique, tu ne peux pas lire le passeport à distance. Alors que si tu as n'importe quel objet connecté qui fait du Bluetooth Low Energy, tu peux le détecter assez facilement. Mais il y a plein d'autres risques complètement à la con. Hein. Je veux dire, si tu as une montre connectée et qu'elle a plus de piles, bah, tu n'as plus l'heure. Quoi. Si tu as un objet médical connecté et qu'il a plus de piles, bah, tu ne connais pas ton taux de sucre dans le sang et tu peux rater ta piqûre. Enfin, ou si ton pilulier dont tu as besoin tous les jours pour survivre... T'as pas fait gaffe et en fait, t'as pas dit qu'il fallait que tu prennes telle pilule tel jour parce qu'il n'y a plus de piles. Bah, tu vois, des risques, tu peux toujours en trouver, quoi.
Ouais, donc tu peux faire des attaques en consommation électrique, effectivement. Bah, comme on avait fait à une époque sur les téléphones Bluetooth. On avait vu qu'on pouvait effectivement activer la connexion Bluetooth, voire Wi-Fi, de façon à épuiser la batterie en quelques heures. Là, ça peut avoir des impacts, effectivement, avec les piluliers ou les pompes à insuline, etc. Bon, sans parler des sondes de pacemaker qui permettent de délivrer des décharges au niveau du cœur. Hein. Donc, avec quelques centaines de volts, ça ne doit pas faire du bien.
Ah oui, il y a eu une histoire comme ça, il y a quelques temps, où une exploitation de vulnérabilité était possible sur un pacemaker.
Voilà, effectivement, un chercheur a montré que c'était possible. Ensuite, ça a été repris dans une série américaine. C'était Homeland, je crois. Et suite à ça, le vice-président américain, Dick Cheney, a fait désactiver cette possibilité de se connecter à son pacemaker. Donc, vous voyez un petit peu le circuit? Il y a un chercheur, puis une série américaine, puis une désactivation dans le monde réel par le vice-président américain. J'aime bien ce genre de transition.
Enfin, il n'y en a pas eu qu'un des chercheurs. Et là, c'est un petit peu quand même... J'ai peut-être un peu ragé sur la recherche, entre guillemets, en sécurité. Mais je ne sais plus qui l'avait dit sur Twitter d'une assez belle manière, d'ailleurs. Mais en gros, arrêtez de faire des confs en disant « on a piraté tel objet connecté ». On s'en fout, quoi. C'est tous les mêmes. On sait qu'il y a très peu de sécurité, qu'ils ont des contraintes de fabrication qui font que c'est hackable. Et les trois premiers qui ont fait le truc, c'était rigolo, quoi. Mais... D'ailleurs, je crois que c'était Barnaby Jack, hein, le premier à avoir piraté un pacemaker. Mais après, maintenant, il vaut mieux mettre au point des protocoles et trouver des solutions plutôt que de faire une énième conf de sécurité en disant « j'ai piraté ma brosse à dents ». Quoi.
Ouais, effectivement, ça a été la mode à un moment, un peu comme quand on piratait des drivers Wi-Fi il y a quelques années. Il y en avait au stick aussi. Bon, voilà. Chacun piratait son petit driver d'un certain constructeur de son côté et ça lui faisait de la pub, quoi, effectivement.
Bah, c'est-à-dire qu'en recherche, il y a celui qui a l'idée et puis il y a tous ceux qui suivent, quoi. Mais qui raffinent l'attaque. Mais globalement, les objets connectés, je pense que le sujet a été battu à mort, quoi. Beaten to death, comme on dit en anglais.
Bah voilà, on a bouclé.
Ok, justement, alors pour conclure, comment on pourrait conclure le sujet?
ça n'est pas sécurisé et en fait, bon, on continue comme ça en fait. L'industrie n'a pas l'air de répondre, de faire quoi que ce soit de réellement bien concret. Et les utilisateurs, eh ben, ils continuent à acheter et il va falloir encore attendre encore un gros pet pour qu'il sorte un semblant de prix ou un début de prise de conscience. C'est assez paradoxal quand même. Hein. Mais on trouve un peu la même chose au niveau du cloud computing. Hein. Au début, on disait, ouais, cloud, oh, on a bien appris la sécurité, oh, on va la prendre en compte, bien sûr.
Non, mais attends, de toute façon, rien n'est sécurisé. En téléphonie, là, il y a encore des trucs qui sortent sur SS7. Enfin, SS7, je veux dire, ça n'a pas été conçu pour être sécurisé. Même au niveau logiciel, quand tu vois avec le nombre de failles qui sont tombées l'année dernière, globalement, tu prends n'importe quelle activité humaine où il y a 3 transistors. Et j'allais dire, tu peux même aller au-delà de l'informatique. Hein. Les chèques, c'est pas sécurisé. Le paiement par carte bancaire, c'est pas sécurisé. Ça va l'être un peu plus depuis qu'Obama a signé un presidential order pour obliger les Américains à avoir des cartes à puce. Mais globalement, rien n'est sécurisé. Et le monde tourne quand même. Parce que tant que le risque et la fraude est gérable, ou que les attaques restent gérables, voilà, ça tient.
Tant que le coût de la fraude est inférieur au bénéfice, ça sert à rien de lutter contre la fraude.
Ouais, ou tant que le nombre de clients mécontents parce que leur thermomètre rectal s'est fait pirater reste inférieur au revenu généré par la vente de thermomètres, il y aura des vendeurs de thermomètres. Il n'y a aucune activité qui est sûre à 100% de toute façon.
C'est un sujet très chaud.
Ouais, mais bon, je pense que les experts en sécurité, ils se branlent un petit peu trop avec les... Enfin, tout le monde n'arrête pas de dire la sécurité à 100% n'existe pas, et puis après tout le monde prend un malin plaisir à produire des attaques sur tout et n'importe quoi, des fois complètement tirées par les cheveux, et à expliquer qu'ils ont trouvé une nouvelle attaque et que c'est hyper dangereux, et à sortir un logo et un white paper et machin. Bon, à la fin il se passe pas grand chose quoi. À la fin, quand tu regardes les vraies attaques, c'est des Drupal pas à jour depuis 5 ans qui se font défoncer avec un mot de passe par défaut quoi.
Ah oui, c'est sûr.
Donc, jusqu'ici, tout va bien.
Oui, voilà, c'est la conclusion. Okay. Oui, mais en fait, là, ici, on dit objet connecté, on parle un peu sphère privée et ainsi de suite, mais quand on a des objets connectés dans des systèmes industriels, sur tout ce qui est pipeline, et j'ai entendu parler d'un truc qui s'est passé en Allemagne. Où il y a eu un problème avec au niveau d'une usine de je sais pas quoi. Où là effectivement
c'est le fourneau.
Ouais voilà et ben je pense que là par contre les objets connectés dans le monde industriel si ça tombe en panne ou si leur sécurité est compromise bon on parle pas du thermomètre rectal ou de ce genre de choses, ça va être un peu plus douloureux je pense. Mais bah, c'est peut-être là où il faut mettre l'accent en premier peut-être.
Ouais. Ouais, c'est là où des attaques, comme on parlait tout à l'heure, sur faire mourir les piles avant la date de changement par attaque en consommation d'énergie, c'est là que ça peut aussi avoir son importance. Hein. C'est des petites attaques qui semblent insignifiantes deviennent dans ce domaine-là vraiment critiques.
Effectivement, on est à l'interface entre les objets connectés et le domaine des SCADA. Ouais. Effectivement, là, les impacts sont tout de suite bien supérieurs et avec un facteur multiplicateur, effectivement. Donc il y a déjà beaucoup de capteurs en fait qui sont plus ou moins connectés, enfin qui ont beaucoup de cartes SIM, hein, c'est donc le M2M, avec des tas de capteurs qui envoient des données sur le réseau GSM, en GPRS d'ailleurs, hein, donc en faible débit. Voilà, donc si ces capteurs-là tombent en panne ou envoient des données erronées, ça peut avoir des impacts très forts. On a des mesures de capacité restantes dans des bouteilles de gaz, par exemple, hein, à la SNCF. On peut avoir des capteurs de température, de vitesse de rotation. Hein, on a vu ça notamment en Iran, par exemple. Moi, j'ai vu ça sur des plateformes pétrolières. Donc, si effectivement, on a des données qui sont pas les bonnes concernant la pression dans une pompe ou dans un compresseur, ça peut avoir des impacts réels, dont une explosion de pipeline, comme ce qu'on a vu il y a pas longtemps dans la presse, quoi. Donc, effectivement, la rencontre entre les objets connectés et le domaine des SCADA peut être assez explosive.
Ouais, mais enfin, là encore... Il suffit pas d'avoir un truc vulnérable pour qu'il se passe quelque chose. Faut aussi, déjà, quand tu parles par exemple des bouteilles de gaz à SNCF, alors c'est un domaine que je connais pas du tout, mais j'imagine que si la bouteille a pas réussi à pousser l'aiguillage et que l'aiguillage est pas dans la bonne position, t'as un deuxième détecteur qui va dire que la position est pas bonne. Enfin, ça demande déjà une certaine préparation, une certaine volonté pour arriver à saboter le système. Et ensuite, du coup, c'est pas n'importe qui fait ça. Et je veux dire, si tu veux faire sauter un pipeline, bon, tu peux pirater le SCADA si tu sais comment faire, sinon t'envoies une grenade. Donc le gars qui veut pirater le, enfin qui veut vraiment provoquer des dommages industriels, je veux dire, il a les objets, enfin le SCADA connecté, ça s'ajoute à son arsenal, mais il a déjà tout ce qu'il faut, quoi.
Oui, tout à fait. Le gars qui est sur place va préférer la grenade, bien sûr. Après, c'est celui qui veut faire un truc à l'autre bout du monde qui va utiliser le SCADA.
Ça fait... Si on peut regarder par exemple l'exemple, c'est pas du tout SCADA, mais c'est l'exemple de l'avion d'Air France Rio-Paris qui s'est crashé a priori sur un problème de données reportées par des sondes qui n'étaient pas correctes. Il faut très bien imaginer qu'une compromission de ce type-là puisse être volontaire.
Ouais, on peut imaginer, mais bon, il y a aussi, enfin, sur ce crash, oui. Il me semble que l'erreur humaine a été retenue.
Mais je suis d'accord, mais elle a été a priori déclenchée par un problème de capteur.
Quand tu regardes les histoires
de contrôle derrière,
l'historique des accidents nucléaires sur Wikipédia, par exemple, enfin, pas que Tchernobyl, hein, les Three Mile Islands, etc. Quand tu regardes bien, souvent, c'est des les mauvaises décisions des opérateurs provoquent un suraccident, quoi. Donc, tu peux pas dire, ah tiens, il a piraté telle vanne et c'est ça qui a fait péter le truc. Je veux dire, la vanne, elle aurait pu se bloquer toute seule, le capteur, il aurait pu geler tout seul, et les gens sont, enfin, les opérateurs, les pilotes sont censés savoir réagir dans ces conditions.
Oui, les attaques qui fonctionnent d'ailleurs, c'est des attaques qui sont suffisamment succes, c'est-à-dire qui vont provoquer une panne, puis une autre, et qui vont entraîner donc un effet catastrophe jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'important comme une explosion. Si on reprend l'exemple des centrifugeuses en Iran, bon, bah, il y a eu plusieurs éléments, donc les capteurs qui remontaient des données fausses, les moteurs qui ont accéléré à la vitesse qu'il fallait pas, donc ça a été un calcul assez précis pour conduire à la casse de la centrifugeuse. Mais si l'attaque est suffisamment succe, ça peut aller jusque-là. On n'est pas dans une panne aléatoire, là. On est vraiment dans un désir de faire le mal, hein, dans ce genre d'attaque. Et ça peut être à grande échelle, c'est-à-dire on peut le faire à différents sites en même temps et depuis l'autre bout du monde, comme d'habitude.
Tout le monde est super excité par cette histoire de Stuxnet, mais enfin, quand tu regardes le nombre de gens qui sont morts après, enfin, de gens qui sont vraiment morts, c'est-à-dire d'Iraniens qui se sont fait descendre dans la rue à Laouzi, quoi. Bon, Stuxnet, c'est juste une pièce dans un puzzle, hein. C'est pour éviter d'avoir lâché une bombe, mais enfin, je pense que s'il avait fallu mettre une bouteille de gaz à la place d'une clé USB, les auteurs en étaient capables.
Oui, tout à fait. On cite ça comme un cas d'école parce que c'est l'un des premiers, mais il était effectivement bien conçu, quoi.
Voilà. Ah oui. Non, mais c'est du bon travail, mais pas plus que la conception d'un missile, quoi. Ouais, enfin, ça coûte pas plus cher, quoi.
Non, effectivement. Le but, c'est que ça coûte un peu moins cher. Bon, bien que Stuxnet a dû coûter cher, hein, les évaluations qu'on a faites, c'est plusieurs millions de dollars quand même. Mais bon, le but était aussi important, quoi. Ça valait le coup.
Ok, bon, on a un petit peu débordé. Peut-être que le SCADA, d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un épisode à lui tout seul.
Ouais.
Ouais, par contre...
Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. À bientôt.
À bientôt.